Les génies du bien, le podcast qui vous veut du business. Les discussions d'aujourd'hui pour définir le travail indépendant de demain. Des conseils à mettre en place au quotidien. Des sujets enrichissants pour aller plus loin.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce podcast du Lab. Je me présente, je suis Massinissa de Lynx Consultant, donc je suis conseiller en portage salarial depuis près de 5 ans aujourd'hui. Et j'accompagne notamment des consultants portés qui ont une mission à facturer. Et j'accompagne également des entreprises qui souhaitent en savoir davantage sur le statut du portage salarial, puisque c'est un statut aujourd'hui qui est en pleine expansion. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Boulard, qui est le directeur du Lab, qui a une quinzaine d'années d'expérience, notamment dans le monde du freelancing. Et il a beaucoup de choses à nous raconter, notamment auprès des consultants, des clients. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Massy.
Merci d'être présent pour ce podcast. On va parler de la prospection client aujourd'hui, de la posture du consultant également. Je serais ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité. Je suis aujourd'hui le responsable fondateur du Lab, la fabrique du consultant indépendant, qui est un espace pour les consultants indépendants, autonomes, entrepreneurs, portés, qui veulent rencontrer leur pair, apprendre aussi sur leur métier, apprendre sur les évolutions de la posture indépendante, comment on trouve des missions, comment on négocie. On a créé ça il y a plusieurs années avec des partenaires et c'est un espace qui est ouvert à tous les statuts, pourvu qu'ils soient dans une démarche indépendante ou autonome.
Quels sont les métiers qui sont concernés par ce Lab, et notamment par le portage aussi pour le monde du freelance en général ?
En fait, c'est beaucoup de freelance, beaucoup d'indépendants et de portés qui travaillent dans les métiers de la prestation intellectuelle. Le conseil, la formation, les services aux entreprises, ce soit des clients privés ou des clients publics, peu importe finalement le profil qui vient nous voir, l'enjeu c'est de lui donner un lieu où il n'est pas seul, où il peut apprendre, il peut rencontrer.
C'est de sortir l'isolement.
Oui, c'est sortir les autres et c'est créer du réseau. C'est créer du réseau. Créer du réseau pour des profils qui travaillent de manière un peu isolée, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler en équipe aussi. Et donc, voilà, le Lab, c'est cet espace de partage et de réseau.
Et ça tombe bien que vous puissiez nous dire un mot sur sur ce monde indépendant, puisqu'on a eu l'occasion ensemble, Geoffroy, de pouvoir travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que le monde du portage prend un pas assez important en France. On a une transformation, une mutation du marché du travail. Je donne quelques chiffres comme ça pour nos auditeurs. Je pense que c'est important qu'ils puissent le savoir. C'est qu'aujourd'hui, on a près de 4 millions d'indépendants en France. C'est quand même assez considérable. On est sur une augmentation de près de 10%. Donc, c'est pratiquement à deux chiffres chaque année de croissance sur le nombre d'indépendants qui se lancent. Et puis, aujourd'hui, on a quand même une difficulté, c'est que les consultants, pour trouver une mission, en moyenne, c'est 3 mois. Et Geoffroy, toi, avec ton expérience, et je pourrais aussi dire quelques mots là-dessus en tant que conseiller en portage, mais sur ce thème de prospection, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Pourquoi il est important de prospecter et de garantir quand même une certaine activité sur le marché pour nos consultants en recherche de mission ?
Ce qu'on voit à travers les professionnels que nous côtoyons au sein du Lab, c'est que le sujet de la prospection, il est central. C'est leur chiffre d'affaires, c'est leur revenu, c'est la pérennité de leur posture. Donc, c'est un sujet essentiel. On organise des webinars, on organise des réunions physiques, on organise des émissions. Nous, notre sujet, c'est d'abord de répondre à la question d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, d'augmenter son chiffre d'affaires, s'adapter à la demande, ça c'est essentiel, mais également pérenniser son activité, enrichir sa base de données, connaître son marché. Donc c'est important pour toutes ces raisons. Et donc il faut investiguer tous ces champs, et on a beaucoup de professionnels indépendants, autonomes, qui accordent trop peu de place à la prospection.
C'est vrai, et je te rejoins là-dessus Geoffroy, puisque moi-même j'ai une expérience assez particulière avec les consultants qui nous appellent pour trouver des missions, même si c'est pas le cœur d'activité du portage. Mais je te rejoins complètement, et c'est notamment pour ça qu'on met en place des podcasts, des webinars, pour qu'on puisse les accompagner, répondre à leurs besoins. Et pour la prospection, quels sont les tips, quels sont les outils qu'ils pourraient utiliser tout simplement pour trouver des missions ?
On se rend compte que La première mission, elle vient souvent d'un ancien employeur qui recontacte le professionnel, qu'il soit en portage, qu'il soit freelance, qu'il ait créé son entreprise, ouais. Et qui va donc être le premier client. Bon. Pour réussir cette mission, le professionnel, et c'est ce qu'on voit dans tous les témoignages, il s'investit, surinvestit d'ailleurs cette première mission parce qu'il veut la gagner, cette mission. Il veut la fidéliser, il veut la renouveler. Et donc, il y passe souvent plus de temps qu'il ne faut. Et donc, il délaisse la prospection de la deuxième mission. Donc ça, c'est un premier sujet et un premier aspect. C'est première mission veut dire aussi réfléchir à la suite qui peut être une mission renouvelée, mais qui peut être aussi une nouvelle mission. Donc, le premier sujet, c'est de dire, prenez du temps, même si vous avez une première mission qui vous prend tout le temps, tout un mois, par exemple, à plein temps, mais prenez du temps quand même dans ce mois pour penser à la suite. Et ça, c'est très important.
Et ça, c'est d'anticiper éventuellement même une fin de mission auprès d'un client.
Tout à fait. Alors, comment on fait ? La gestion du temps, elle est clé. Quand vous répondez à un client qui veut travailler avec vous, vous définissez ses besoins, vous adaptez évidemment votre offre en fonction de ses besoins et vous allez quantifier le temps que vous allez passer pour atteindre l'objectif qu'il vous a assigné et de passer, entre guillemets, du point A au point B. Mais pour ça, vous allez définir toutes les tâches, toutes les missions, toutes les phases de réalisation de la mission. Il faut s'y tenir déjà, premier sujet, parce que une minute, une heure, une demi-journée, c'est de l'argent pour un consultant. Donc, c'est autant de temps qu'il ne consacre pas à de la prospection, qui prend également du temps, comme vous le savez. Donc d'abord, et avant de démarrer, définir son offre. Même si on a une première mission. Ouais, parfois, on n'a pas le temps, mais je pense que Massy, vous le voyez au quotidien aussi, on n'a pas le temps de définir son offre.
C'est ça.
On part pied au plancher, c'est un ancien contact, un ancien employeur, c'est un ancien partenaire, un ancien fournisseur qui veut travailler avec vous, qui sait que vous vous êtes lancé, soit en portage, soit en indépendant. Et donc, vous foncez. Mais vous n'avez pas forcément réfléchi à votre offre. Donc, la définition de l'offre, c'est le premier point. Ensuite, cibler ses clients.
Bien sûr.
Quel client ? Quel type de client ? Quel secteur d'activité vais-je les trouver ? Donc, il y a une réflexion à mener. Et puis, ensuite, établir une tarification. Comment je vais facturer ? Par rapport à l'offre, par rapport aux clients, aux habitudes du secteur, c'est très important donc d'avoir ces trois piliers avant de démarrer.
Et justement, Geoffroy, je me permets, j'ai souvent le cas, hein, dans le cadre du portage, des consultants qui souhaitent renégocier son tarif journalier. Et ils me posent souvent la question de savoir voilà, quelle est la moyenne du marché, etc. Comment je pourrais me vendre auprès d'un client ? Et puis, ils pensent forcément à une certaine concurrence, puisqu'on sait que le marché indépendant est assez concurrentiel aujourd'hui. Comment, toi, en tant qu'expert, directeur du lab aujourd'hui, tu pourrais conseiller, je dirais, un freelance à se lancer en portage et comment il pourrait définir son tarif ? Est-ce que c'est plutôt sur son expertise, son nombre d'années d'expérience ou tout simplement ce qu'on appelle la relation commerciale auprès d'un client ? Quels sont pour toi, les sujets les plus importants pour définir son TGM auprès d'un client ?
C'est souvent une question que les professionnels autonomes et les indépendants se posent, c'est suis-je au bon prix, au prix du marché, le juste prix. Il est défini par quoi ? Il est défini par un marché, c'est-à-dire des concurrents et des clients qui se mettent d'accord sur une tarification pour valoriser une prestation. Donc, il y a des références de TJM, comme tu le disais à l'instant, et c'est pas parce qu'on est en portage ou parce qu'on est indépendant, parce qu'on est auto-entrepreneur, qu'on doit être inférieur au prix du marché. C'est souvent un des écueils. Ah oui, je suis petit, donc je vais faire un tarif moins important qu'un cabinet conseil. Non, ce qui compte, c'est ce que vous allez apporter au client.
Oui, c'est de se vendre.
Et que vous êtes, en général, dans de la prestation opérationnelle, du conseil opérationnel. Souvent, vous avez exercé des missions en entreprise et des responsabilités. Donc, vous avez une expérience opérationnelle et c'est ce que vous allez, entre guillemets, chercher à promouvoir auprès de vos clients, c'est cette connaissance du monde de l'entreprise, cette connaissance des rouages, cette connaissance des enjeux de l'entreprise, puisque vous en êtes issu. Donc, c'est du conseil opérationnel. Et ce conseil opérationnel, il a une valeur. On ne vous demande pas d'avoir fait les grands cabinets de conseil avant pour pouvoir commercialiser une prestation de conseil. Non, c'est aussi la particularité des indépendants et des personnes autonomes qui ont choisi le portage, qui ont choisi d'autres formes d'emploi, que de valoriser une approche du conseil qui est au plus près des attentes des directions d'entreprise ou d'organisation.
Ouais, et c'est ce que je rencontre aussi, moi, dans le cadre du portage. Effectivement, on a beaucoup de consultants, une fois qu'ils ont défini, je dirais, leur outil de prospection et puis un TJM, rentrent directement dans le cœur du marché, essayent de trouver un client. Et puis, une fois qu'ils ont un client, ils se rendent compte que finalement, c'est aussi compliqué de finaliser lors du rendez-vous client la mission concernée. Quels sont, je dirais, les conseils que tu pourrais leur donner pour finaliser ce rendez-vous client pour qu'il puisse, en fait, s'avérer être un succès pour eux?
Revenir peut-être sur le juste prix. Comment on trouve le juste prix? C'est en interrogeant ses concurrents, en interrogeant aussi des potentiels clients sur le prix qu'ils sont prêts aussi à mettre dans une prestation. Donc, il y a ce travail aussi un peu pour se positionner. Et puis après, il y a des spécificités que le consultant, la formatrice ou le formateur va apporter qui font que tout ne se vaut pas en matière de formation. Quand il y a une dimension très technique, évidemment, on ne va pas être au même prix qu'une formation un peu plus classique et très répandue sur le marché. Vous voyez,
oui.
Donc, il faut valoriser aussi
l'expertise.
L'expertise qui va être apportée, qui va être transmise à des équipes si c'est de la formation, ou qui va permettre de transformer une organisation si on est dans du conseil auprès d'une direction commerciale ou d'une direction marketing. Il y a aussi, et ça je l'ai rencontré, parce que dans les partenaires du Lab, nous avons des sociétés donc de portage, par exemple Salarial, qui apportent cette connaissance de la facturation de prestations équivalente et qui donnent des indications ainsi sur les prix du marché. Donc ça, c'est des conseils aussi que donnent, je sais, des sociétés, par exemple, de portage Salarial à leurs consultants qui démarrent et qui ne savent pas comment se positionner sur le bon prix. C'est au regard aussi de ce qui a été facturé par l'entreprise sur un plan global. Et je sais qu'il y a des entreprises qui donnent des indications après. Le consultant, la formatrice, elle va choisir son prix.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Effectivement, un ex-consultant, ça m'arrive très régulièrement de donner ce qu'on appelle le cadrage des honoraires. Donc, les consultants viennent avec, je dirais, un TJM, leur expertise, etc. Et puis, on peut définir ensemble, en moyenne, bien évidemment, c'est pas forcément un TJM qui est fixe, un tarif, leur donner une indication, une idée de ce qu'ils peuvent, je dirais, facturer auprès d'un client. Donc, le cadrage des honoraires, c'est assez important. C'est même le sujet le plus important pour une négociation, voire même, comme tu disais tout à l'heure, l'expertise. Donc ça, c'est évidemment ce que nous, on propose en tant que société de portage salarial.
On a des entreprises, des grandes entreprises qui ont aussi des grilles tarifaires de TJM. Et il y a des référencements pour des prestations informatiques, je pense à cela notamment. Il s'agit de ne pas être à côté de la plaque. Et puis, il y a des choses qui sont quasiment publiques. Dans des métiers, il n'y a pas trop de hasard, il n'y a pas trop de fluctuations sur un certain nombre de prestations, je le disais, en matière informatique. Voilà, il y a des choses qui sont assez connues, en fait, sur les tarifs qui sont appliqués par les clients.
Et puis, tu disais tout à l'heure que c'était important d'avoir un réseau, puisqu'en fait, l'indépendant est plutôt isolé sur le marché du travail. Selon toi, Geoffroy, comment le consultant pourrait réseauter, élargir son espace de prospection? Moi, j'ai pensé notamment à LinkedIn, mais aussi à des rencontres physiques. Est-ce que toi, durant ton expérience en tant que directeur du Lab, est-ce que tu as rencontré ce genre de demande auprès des freelances et qu'est-ce que tu pourrais leur dire là-dessus?
L'objectif pour les consultants qui cherchent à pérenniser leur posture indépendante ou autonome, portée, c'est donc de poursuivre et d'avoir d'autres clients ou d'autres missions. Donc, après la première, il faut la renouveler. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir, en fait, présenter une offre adaptée à la situation d'une entreprise qui recherche votre compétence pour le faire progresser dans son management, dans ses objectifs financiers, commerciaux, dans la manière d'organiser un site de production. Donc, le sujet, c'est déjà de réseauter. Comment on réseaute? Tu parlais de LinkedIn. LinkedIn est un outil puissant, mais LinkedIn, il faut l'utiliser à bon escient. Et donc, il faut avoir une page LinkedIn quand on est consultant, quand on est formateur, formatrice, qui soit la plus précise possible, la plus experte possible. Et donc, il ne faut pas lésiner sur la manière dont on présente son activité. Donc, il y a ça. Il y a aussi des rencontres physiques. On le voit d'ailleurs avec l'après-Covid, beaucoup de rencontres physiques qui commencent à
à surgir, et il était temps, parce qu'on était tous en télétravail.
Il y a un
télétravail.
Impact sur le marché du freelance
oui,
à cause du Covid.
Parce qu'on a besoin de liens, on a besoin de se rencontrer, besoin de se confronter. Tout ne peut pas se faire non plus à distance. Donc le digital permet la rencontre physique, qui permet de nouer des alliances, des partenariats, permet d'avoir des idées. Et donc c'est important d'être en mouvement quand on est en recherche de mission. Ça, c'est très important. En mouvement, donc, c'est regarder quelles sont des structures qui peuvent prescrire votre expertise à des clients finaux. Et puis, il y a un sujet aussi de remobiliser son réseau et son carnet d'adresses primaire, c'est-à-dire finalement ses anciens collègues qui ont tous évolué dans des entreprises et qui peuvent être des futurs donneurs d'ordre par rapport à la spécialité et par rapport à l'expertise que vous avez éventuellement développée avec eux ou au contact d'eux. Vous avez le réseau secondaire, réseau familial, parce qu'il faut aussi se faire connaître auprès de ses amis, de ses proches, sur ce que vous faites. Pas avoir peur de le dire. Quand on est consultant, quand on est formateur, quand on est indépendant ou autonome porté, on l'est H24. On l'est pas uniquement du lundi 9h au vendredi 18h. Donc, vous allez dans une salle de sport et discuter avec un ami. Vous allez côtoyer un licencié du club auquel vous appartenez. Bah, vous allez très vite parler de ce que vous faites. Donc, il faut être capable de le dire. Et donc, il faut avoir aussi une formation, entre guillemets. Il faut s'être préparé à parler de manière pertinente, je dirais, en tout lieu et à tout moment.
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Geoffroy. Tu as cité deux mots, remobiliser et carnet d'adresse. Et c'est absolument vrai, puisqu'on a une statistique hein, en France aujourd'hui. C'est près d'un quart des missions qui sont trouvées par du BAO, du bouche à oreille. Donc, il faut absolument que les consultants puissent développer leur réseautage. Mais ça se passe dans une salle de sport. Ça peut se passer également au boulot, dans un ancien employeur, etc. Et après, on va parler des prospections, des rendez-vous clients.
Excuse-moi, parce que je t'interromps, mais
je t'en prie.
Tu parlais du bouche à oreille, c'est quand même une statistique importante. Et au travers des échanges que je peux avoir avec des consultants, des formateurs, la recommandation, elle est clé.
Bien sûr.
La recommandation, elle permet l'obtention de mission, l'obtention de rendez-vous préalable, on va en parler, mais c'est très important aujourd'hui d'investir dans la recommandation. Et souvent, on a des profils qui nous disent « Écoutez, moi, je n'ai pas fait une école de commerce. Me vendre, alors j'aime pas du tout le terme, mais ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. » Et on ne demande pas aujourd'hui à un consultant, un formateur, entre guillemets, de se vendre. Aujourd'hui, il y a, et la sémantique est importante, un client qui va acheter une offre de service, une prestation pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et c'est important dans l'approche, et les mots ont un sens. Donc tout ça, ça se prépare, et le bouche à oreille, la recommandation, elle est clé pour obtenir des missions. Tu l'as dit, mais ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut être visible et il faut être capable aussi d'être en mouvement et ouvert sur des évolutions sur votre marché, technologiques, réglementaires, qui vous permettent
formation,
de nouer des contacts
certification.
Et puis de faire et puis de monter en puissance sur la méthode. Aujourd'hui, ce qu'attendent aussi les clients, c'est une méthode d'intervention, un professionnalisme, jusque dans la négociation du prix, puis ensuite, évidemment, dans le déroulement de la mission et dans la mesure des effets de votre prestation sur l'organisation du client. Parce que c'est ça le sujet, que ce soit en formation, que ce soit en conseil.
Et aujourd'hui, Geoffroy, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que c'est le cœur quand même du sujet, comment, une fois que le consultant a confirmé un client, comment il peut le transformer, je dirais, de manière positive, c'est-à-dire commencer une mission après ce rendez-vous?
Il faut d'abord qu'il prépare son rendez-vous en regardant l'environnement de l'entreprise, l'environnement de l'interlocuteur, finalement. Ses problématiques, son domaine de compétences, son pouvoir dans l'entreprise, très important. Et apprécier sa capacité à décider, à proposer, à présenter les enjeux auxquels il est confronté. Donc, premier sujet, se renseigner, étudier, pour adapter, évidemment, son offre. Donc ça, c'est très important. Préparer cet entretien, ça passe par ça.
Et ça prend en compte les transformations du marché, les évolutions
technologiques,
économiques,
le rachat de l'entreprise, un nouvel actionnaire, un changement de management récent. Voilà, tout ça, il faut le connaître. Vous ne pouvez pas arriver en rendez-vous comme ça sans avoir fait ce travail. Il est important aussi donc, de penser à questionner votre interlocuteur, un peu plus profondément, évidemment, que lors du premier contact que vous avez eu avec lui. Club, dans un réseau, ou via LinkedIn, dans une messagerie. Voilà. L'idée, c'est de profiter d'avoir ce rendez-vous physique ou à distance, mais pour lui poser un certain nombre de questions en lien avec les enjeux. Pourquoi ? Pour adapter votre proposition future. Vous n'êtes pas dans l'exposé de toutes vos prestations, votre vie, votre œuvre, pas du tout. Le sujet, c'est dire comment moi je peux vous aider, vous accompagner pour que vous atteigniez vos résultats et vos objectifs. Et donc, pour cela, il faut que vous compreniez l'environnement. Et il le comprendra d'ailleurs, que vous n'arriviez pas à une solution, avec une solution toute faite. C'est l'enjeu de l'expertise. Montrer son expertise, c'est être capable de questionner de manière experte le client sur le futur client, parce qu'il est encore prospect, je vous le rappelle, lors de ce rendez-vous. Voilà. Et ensuite, pour le finaliser, il y a l'enjeu de la négociation, il y a l'enjeu du tarif. Il faut connaître aussi la marge de manœuvre financière de votre interlocuteur et budgétaire. Est-ce qu'il a le pouvoir de signature pour engager une mission ? Ou est-ce qu'il va falloir en référer au comité de direction ? Tout ça doit être appréhendé. Et puis ensuite, vous allez revenir vers lui et lui proposer une offre. Mais l'écoute est très importante. Et la capacité à montrer que vous avez développé des missions et obtenu des résultats, même dans des secteurs un peu différents de celui que vous rencontrez chez ce prospect client, c'est très important. Donc, de faire des parallèles qui, évidemment, ne seront pas exactement la situation, mais montrer que vous avez été capable de relever un défi d'un client, il faut trouver un exemple, mais pas de réciter non plus votre CV ou votre profil de LinkedIn. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être expert et d'être un peu chirurgical pour faire mouche, c'est-à-dire établir le lien de confiance, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est que le client, il ait confiance pour vous confier une mission qui est stratégique, qui est importante pour son organisation.
Donc, si je comprends bien, que l'outil principal, c'est ça qui me vient en tête indirectement, pour qu'on puisse comprendre qui est notre client, c'est LinkedIn. Finalement.
Oui, il y a le réseau LinkedIn, mais il y a Google. On peut créer des alertes pour se tenir informé de l'actualité, soit thématique, sur un mot-clé, deux mots-clés, soit sur une région, soit sur une entreprise, parce que vous pouvez tout faire, et d'avoir donc des retours sur ce qui se passe. Donc, il n'y a pas que LinkedIn. LinkedIn est important, il faut le soigner. Votre profil, on l'a dit, doit être très professionnel, votre photo, la manière dont vous décrivez votre expertise, vos expériences doivent être détaillées. Ça, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez partager de l'information sur LinkedIn. Faire vivre votre compte LinkedIn, c'est aussi montrer votre expertise à travers des sujets d'actualité que vous commentez. Vous pouvez aussi produire des textes, des réflexions, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est regardé. Quelqu'un qui va intervenir en entreprise, on regarde sur LinkedIn s'il a été capable, je sais pas, d'écrire une tribune un peu thématique, ça montre en cela une certaine expertise. Donc, c'est rassurant pour le client.
Oui, puis on peut ensuite consulter le profil de l'interlocuteur qu'on va rencontrer, connaître un peu ses centres d'intérêt, ce qu'il a fait en tant que professionnel sur le marché, notamment. Ça peut être aussi intéressant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire pour un freelance ? Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour qu'il puisse se lancer et trouver une mission en quelques mots pour qu'on puisse finir notre podcast aujourd'hui en...
Sur la prospection et sur les missions, c'est toujours appréhendé de manière un peu angoissante par les nouveaux consultantes, les nouvelles consultantes, les nouveaux consultants. Et donc, l'enjeu, c'est de leur dire, vous avez cette capacité, à partir du moment où vous avez défini une offre, vous avez une expertise dont vous êtes fier et vous savez que vous pouvez rendre service à des entreprises qui ont besoin de votre expertise parce que vous avez travaillé en entreprise et que vous connaissez les besoins, les manques et la nécessité d'être accompagné. Eh bien, il faut déjà avoir confiance dans ce qu'on propose. Et la dimension commerciale, elle se travaille, mais c'est en parlant de son expertise, sans être saoulant, je le dis aussi, qu'on va rassurer le client et qu'on va engager une relation contractuelle. Donc, il faut être passionné, être organisé, on l'a dit. C'est un chemin permanent. C'est-à-dire qu'il faut se renouveler en permanence. Et puis, il faut être au contact permanent d'entreprises, d'organisations, de consultants, de formateurs, pour parfois être à plusieurs, unis pour remporter des marchés qui sont plus importants, qui vous donnent une visibilité, qui vous font passer aussi des paliers.
Merci en tout cas Geoffroy, merci à ceux qui nous écoutent et à très bientôt.
Merci Massy.
Les génies du bien, le podcast qui vous veut du business. En partenariat avec le Lab et Trajectoire Missionéo, organisme de formation leader pour les indépendants.